Cela fait maintenant 30 ans que le loup a refait son apparition sur le territoire français, depuis l'Italie. Trois ou quatre générations nous séparent de ces individus qui ont vu les derniers loups gris de Bretagne. Toute une culture du voisinage perdue, à réinventer et à faire nôtre, car le loup revient. Avant de l'éradiquer complètement, il semble que cette relation homme-loup n'était ni toute noire, ni toute blanche, mais faite d'adaptation mutuelle de ces deux grands prédateurs, hominidés et canidés. La culture bretonne nous en donne une image bien plus riche et complexe que ce que les rapports de préfecture et les récits des lieutenants de Louveterie nous ont laissé. Bonjour, vous écoutez Radio Balise, Christophe au micro pour ce 8e numéro de Cheval Vapeur, le rendez-vous d'histoire de l'écomusée des Forges d'Inzinzac le Christ et Radio Balise. Beaucoup de voix dans ce numéro. Nous avons demandé à Daniel Dougette, professeur de l'université Rennes 2 et écrivain en langue bretonne, d'évoquer le loup à travers la langue et la culture orale du breton vannetais. Avec le récit inédit, pour commencer, inédit et un peu piteux, du dernier loup de Penkesten. Puis nous ferons un lien avec l'actualité du loup en Bretagne, avec Franck Simonet, naturaliste au groupe Mammalogique Breton. Mais avant de plonger dans l'imaginaire du loup des Bretons d'autrefois, où en sont les enfants des années 2020 avec le croqueur d'agneau et de grand-mère? Qui a peur du loup?
Moi, j'ai pas peur des loups parce que j'en rêve d'en rencontrer un.
Moi, j'ai peur des loups parce que j'ai peur qu'ils me mangent.
Je sais pas comment... En fait, moi, je pense que les loups, c'est dangereux. Et du coup, j'ai peur. En fait, j'en ai jamais vu de ma vie. Mais je pense que c'est dangereux, moi.
Moi, j'ai pas peur des loups parce que j'en rêve d'en toucher un.
J'ai déjà vu des... J'appelle les chiens qui ont les oreilles pointues les chiens loups.
Mon chien, il ressemble à un loup. Des fois, il y a des chiens qui ressemblent à des loups de neige. Et j'aime bien les chiens qui ressemblent à des loups de neige. J'ai envie tellement de les caresser.
Déjà, le loup, c'est un prédateur, un animal, En fait, le loup, c'est comme un chien, mais il est féroce et il peut attaquer les animaux vu que c'est un animal sauvage.
C'est vrai qu'un loup comme ça, ça peut faire peur s'il grogne, mais en réalité, c'est mignon, ça veut pas de mal, ça veut de mal à personne, ça veut juste vivre sa vie tranquillement.
Si on l'approche trop, il a peur parce qu'il peut croire qu'on lui fait mal, qu'on peut le capturer ou du coup il est surpris.
Moi aussi, j'ai vu dans un livre qu'en fait en hiver quand il fait froid, le loup il devient blanc et quand on est en été, et ben il prend sa vraie couleur.
Et aussi, ce qui fait des loups des animaux parfois sauvages, c'est que en fait les loups ils ont une très grande bouche avec des dents pointues. Donc déjà ça c'est très dangereux, mais aussi ils ont des grosses griffes.
Je sais que c'est plus les loups qui ont peur des humains et pas les humains qui... certains humains ont peur des loups aussi.
Moi, j'ai pas peur des loups. C'est plutôt eux, en fait, et quand on les voit, en fait, ils s'enfuient. Ils ont peur des humains qu'on lui fasse de mal.
Et moi, par contre, ce que je trouve triste, c'est que souvent, on tue des loups pour leur fourrure et juste pour le braconnage. Donc, le loup, il attaque juste, juste pour défendre, par exemple, ses petits. Et pas pour attaquer l'homme.
Bah, souvent, les loups, dans les histoires, ils ont les rôles un peu des méchants parce que bah ils ont enfin ils sont ben ils ont des grandes dents et tout ça. Du coup bah enfin il faut toujours que ce soit le loup qui fasse peur, et souvent dans les histoires à la fin bah il devient souvent bah sympa le loup.
Mais souvent les livres où les loups ils sont méchants, c'est à cause de, bah c'est ceux qui sont bah, vers le bah, les livres qui ont été créés vers le Moyen Âge, parce que au Moyen Âge ils avaient peur du loup, ils pensaient que les loups-garous ça existe. Du coup ils ont fait des histoires à partir des loups-garous.
Le loup touche-touche.
Le loup touche-touche.
Il y a un loup et il doit toucher une personne, et quand il touche une personne, et bah, c'est la personne qui a été touchée qui est le loup.
Le loup glacé aussi. En fait, il y a un loup et puis il touche les personnes et puis elles sont glacées. Il faut que les autres personnes les touchent pour qu'elles soient déglacées.
Les loups famille. Il y a un loup qui doit toucher les autres et après ils sont en équipe. Ceux qui ont été touchés, bah, ils sont avec le loup.
Aussi, il y a un loup bougie.
Il y a un loup et puis il y a des personnes qui courent. Et puis après, si on les touche, bah, ils mettent les mains comme ça et puis après ils font ça, et si ça touche par terre, bah c'est eux, le loup.
Oui, le loup couleur.
En fait, il y a un loup, il va dire une couleur et pendant que les autres qui trouvent la couleur, et bah le loup il a le droit de les toucher.
Il y a le loup cabane aussi, il faut une cabane et en fait, il y a un loup, il est dehors et il y a des gens dans la cabane et nous on se met près des endroits dans la cabane où on peut être touché. Et le loup, il doit nous toucher. Il peut pas entrer, par contre, il peut nous toucher par la fenêtre.
Il y a aussi le jeu de cache-cache loup. Le loup, il compte, les autres, ils doivent se cacher. Et après, nous, on court, il doit essayer de nous toucher. Et comme ça, après, c'est à nous de compter et de toucher les autres.
Aussi, il y a le loup perché. En fait, il y a un loup. Et si la personne allait sur quelque chose en hauteur, et ben le loup il peut pas nous toucher. Par contre, s'il était sur le sol, ben il peut nous toucher.
Tout le monde le croyait disparu, manifestement le loup se porte bien, c'est le roi des cours de récréation. On retrouve maintenant Daniel Dougette, enseignant en retraite et auteur en langue bretonne, avec pour entamer la conversation un récit familial, celui que racontait sa grand-mère.
Ah ben oui, parce que c'était le grand-père de son mari à qui c'était arrivé. Bon, ma grand-mère c'est une cardiaque et mon grand-père un Wedeck. Et il s'appelait Jean-Louis, et puis donc, je sais pas, son père devait s'appeler Jean-Louis aussi, je suppose, et le grand-père s'appelait Louis, Wedeck. Donc mon grand-père était né en 1907, on peut supposer que son grand-père devait naître aux alentours de 1850, enfin au milieu du 19e. Et il tenait une ferme il n'était pas propriétaire de sa ferme, il tenait une ferme comme ça, il travaillait dans une ferme à Penkesten. Et donc, dans la tradition familiale, j'ai toujours entendu que Louis Wedeck avait tué, soi-disant, le dernier loup de Penkesten. C'est le Blade de Véant Penkesten. C'est le dernier loup de Penkesten. Alors, si on pense à ça, en supposant qu'il soit né au milieu du 19e, on peut peut-être situer ça vers, 1890, fin d'un. Je pense que les derniers loups étaient tués à peu près dans ces années-là. J'en avais discuté une fois justement avec François de Beaulieu après une de ses interventions, et lui situait ça plutôt dans ces eaux-là. Enfin, si c'était vraiment le dernier loup, ça ne pouvait pas être tellement en 1875. Mais alors, la fourchette de temps, c'est variable, j'ai pas de précision. C'est une histoire qui était racontée souvent dans la famille, mais sans plus de précision. Le grand-père avait tué le dernier loup de Penkesten. Donc c'était comme ça. Et alors, c'était pas très très glorieux comme mort, puisque Louis Wedeck avait entendu ses chiens qui hurlaient, qui aboyaient. Puis il est allé voir ce qui se passait et il avait trouvé le loup avec la tête prise dans les barrières d'un champ. Dans le temps, les barrières des champs, hein, notamment où on mettait les vaches à paître, etc., c'était des grandes perches. Des grandes perches qui étaient enfoncées dans des trous sur les côtés et qui barraient le chemin, quoi. Alors on peut penser que peut-être certaines perches se soient croisées ou quelque chose comme ça. Parce que c'était des perches de bonne section quand même, hein. C'était des choses qui étaient lourdes, hein. Puis qui faisaient 3 mètres de long, des fois plus. Parce que le tombereau, la charrette passait par ces entrées de champ. Là. Et donc, il était en mauvaise position, et les chiens autour de lui. Et le grand-père est arrivé là avec un gros bâton, et puis il lui avait fracassé la tête. Et voilà comment était mort le dernier loup de Penkesten. Alors c'est ce qui se raconte dans la famille. C'est vrai que c'était pas une mort bien glorieuse pour le loup, mais c'était déjà, c'est vrai qu'à cette époque-là, le loup, ça a toujours été une bête qui faisait peur, considérée comme un nuisible, comme à éradiquer. Puis il y avait eu beaucoup de campagnes dans ces années-là pour éradiquer le loup. En Bretagne, ailleurs aussi en France, je suppose. Et voilà comment le dernier loup de Penkesten est mort. Et ça s'est raconté dans des repas et des repas depuis ce temps-là, quoi. On peut supposer que le père de mon grand-père l'avait entendu, mon grand-père l'a entendu, etc. Et moi, je l'ai entendu par mes oncles, par ma mère, par ma grand-mère. Ça devait faire plaisir aux gens de penser que le grand-père avait tué le dernier loup de la contrée. Donc on ne peut pas savoir. Là, bon, ça tient, je vous dis, la tradition familiale. Il n'y a rien de scientifique, oui. Qu'il faudrait. Bon, ce serait des histoires à creuser, comme vous me disiez tout à l'heure, qu'il y avait des primes. Donc ça pourrait se vérifier éventuellement aux archives, etc. Mais bon, tout ça, c'est un travail de recherche que moi je n'ai pas eu le temps de faire, que personne n'a fait non plus dans la famille. Personne n'avait noté plus que ça non plus. Là, je n'ai pas entendu parler d'histoires de primes. Dans la famille.
Alors vous aviez aussi des expressions sur le loup, parce que le loup, dans la tradition en breton, il est très présent. Enfin,
oui,
il
oui, est resté présent. Dans beaucoup de. Un peu partout. Hein. De toute façon, je crois qu'on peut courir toute l'Europe ou même l'Amérique, on va trouver des choses sur les loups. Le loup est présent, c'est un animal un peu totémique. Hein. On le retrouve sur des armoiries, on le retrouve un petit peu partout, le loup. Et en breton, oui, il y en a. Alors, il y a une expression qui est amusante, c'est, on pourrait en penser justement, quand je vous disais qu'il avait une mort peu glorieuse, c'est « Bigger blaze au dangerous, mais tous les rares au farsus ». Ça veut dire que la bouche du loup est effrayante, mais que son petit trou du cul, il est amusant, il est rigolo. Parce qu'évidemment, ça veut dire que quand le danger vient vers vous, bigger blade, quoi, la bouche du loup, voilà, là, on se méfie quand même, on a même peur, ou bien on détale. Mais tous les rares au farsus, son petit derrière, il est amusant, c'est que quand il fiche le camp, ça y est, tout le monde est courageux de nouveau. C'est-à-dire que devant le danger, on fait attention, et quand le danger est passé, après on redevient les plus forts. Blay, c'est aussi celui qui mange beaucoup, puisqu'on dit toujours que on dit, tiens, breton, il y a un mot qui est de la région ici, c'est sclouf.
Oui.
Alors, on l'entend même en français.
Oui.
Oh, celui-là, c'est un sclouf. Oui. Sclouf, alors Blay. Il est vorace comme un loup. Alors, Blay Barra, c'est celui qui mange beaucoup de pain. On pourrait dire aussi bien, alors Blay Chocolat, Blay. Pas l'adapter maintenant, Blay Hamburger, Blay Barra, même Blay Zuben, un loup de soupe, quelqu'un qui adore la soupe. Il y avait aussi dans un autre sens, Inerzor Blay, c'est celui-là, c'est un ours, quoi. C'est quelqu'un qui reçoit mal les gens, qui est un petit peu bizarre, qui est tout seul, un peu, hein, comme on dit en français, c'est un ours, comme en breton, Orblay. Bléiat un dut, c'est pareil, c'est chasser les gens, comme un loup chasserait les gens. Bléiat un dut, ça veut dire quelqu'un qui envoie paître, qui ne veut pas recevoir les gens. Bléiat un dut, quoi.
Donc là, c'est un verbe
ouais.
Qui est construit sur le mot
sur Blay.
Loup.
Oui. Oui, c'est un verbe qui est construit sur le mot loup, et il y en a plein. Il y a d'autres choses. Je suis jamais resté regarder les yeux des loups, mais même pas aux autres Ponskorf. Mais l'arc-en-ciel en breton, c'est Orlagablay, c'est l'œil du loup. Oui, Orlagablay. Alors il y a beaucoup beaucoup de d'autres noms pour l'arc-en-ciel en breton, mais il y a celui-là qui était utilisé par ici, dans la région de l'Orient, en Lagablay. Alors on disait en Lagablay, on disait pas en Lagablay, mais en Lagablay. Et autrement, bah, vous avez forcément, c'est, alors, les choses qu'on a entendues, c'est Blady Camor. C'était un cercle. Et puis la forêt de Camor était réputée pour avoir eu des loups pendant un moment. Le cercle avait pris ce nom-là. Dans la tradition, il y a aussi des danses, danse en Blay, la danse du loup. Là où on faisait beaucoup de bruit avec des sabots, etc. C'était fait pour certainement éloigner, je suppose, ces bêtes-là, quoi, les loups. Et non, autrement, bah, Blay. Alors, il y a beaucoup de choses en breton comme en français. Le loup bah, est parfois quelque chose de redoutable et parfois un benêt, quoi. Carrément un benêt, quoi. Ouais, il se fait rouler dans la farine. C'est pas propre au breton. Il y a assez longtemps, pour une petite revue en breton, j'avais traduit un conte qui était algonquin et qui parlait d'un raton laveur et d'un loup. Et le raton laveur avait réussi à rouler le loup dans la farine et à le faire tomber dans la rivière. Enfin, il était. Personne n'avait peur de ce loup-là, quoi. Même pas le petit raton laveur. Et on retrouve ça dans le roman de Renard. Dans le roman de Renard, c'est Renard qui a le beau rôle, qui est le gros malin, et puis son collègue Isengrin, qui est lui, qui est un loup très, très bête, très benêt. Hein, tout le monde se rappelle de l'histoire où il laisse sa queue dans le lac là, pour pêcher, soi-disant, et qu'évidemment que sa queue est finie, c'est en hiver, et sa queue est prise par les glaces. Quoi. C'est bon. Mais il y a le loup, oui. Alors, si on faisait le tour des expressions autour du loup, il y en a énormément, énormément. Quoi. Je me souviens aussi avoir entendu et puis publié dans les récits de Job Jaffré. Job Jaffré, c'était un écrivain breton qui était né à Bernay en 1906. Et lui, il me disait que son grand-père avait vu des loups à Bernay. Donc lui, était né en 6. Même chose, hein, son grand-père devait être né dans les années milieu du 19e. Quoi, et qu'une fois, il avait été suivi par des loups avant d'arriver jusqu'à chez lui. C'est j'ai publié ça d'ailleurs dans les récits de Job Jaffré qui s'appelle Etrezoum et Brezonac. Et donc il y a encore un témoignage là, du côté de Bernay, mais ça c'est il y a rien de d'étonnant puisqu'il y avait les grands bois de Pont-Calais, il y avait tout ça. Et il raconte aussi lui des histoires un peu bizarres d'un gars un chasseur qui avait tué 6 ou 7 loups d'un seul coup. Parce que les loups, ils avaient la terrible habitude quand même de marcher en file indienne l'un derrière l'autre. Puis lui, il n'avait rien du tout, rien du tout, rien du tout. Il avait pris un espèce de morceau de bois, il avait fait chargé son fusil avec ça. Et puis il avait tiré, et ce gros morceau de bois, le morceau de bois qui lui servait de cartouche ou je ne sais quoi, avait traversé le derrière d'un loup et est sorti par la bouche, et avait traversé les 6 loups d'affilée, quoi. Bon, ça c'est aussi c'est de l'histoire amusante, mais le loup reste tout le temps. On a toujours des histoires de loup pour les enfants. Là, celui-ci qui veut devenir le grand méchant loup, mais en fait il est un petit peu trop peur. Ah oui, c'est ça, le Blay Brass, donc c'est le grand méchant loup. Là sont très très bien. Moi j'ai traduit en breton, mais en français c'est pareil. C'est le...
Simonet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de mission au groupe Mammalogique Breton, donc spécialisé dans l'étude et la protection des mammifères sauvages.
Exactement.
Et vous êtes membre du groupe Loup, qui s'est formé l'année dernière, en 2021. Et c'est à ce titre que je souhaitais échanger avec vous. Ce groupe Loup, dites-nous, qu'est-ce qui a motivé sa création ?
Alors, le groupe Loup, déjà, c'est un regroupement de personnes du groupe Mammalogique Breton et de Bretagne Vivante. Et on a communiqué sur sa création en 2021, en effet, mais en fait, on l'avait pensé et formé un peu plus tôt que ça, là, vers 2019. Et la raison pour laquelle on l'a créé, c'est qu'on savait qu'un jour, des loups reviendraient fréquenter la Bretagne. Et on souhaitait anticiper ce retour. On souhaitait ne pas attendre que ça arrive pour se demander ce qu'il faut faire pour envisager une cohabitation harmonieuse, hein, puisque c'est un peu ce qui sous-tend quand même le fait de vouloir anticiper ce retour. Et donc même il y a 5-6 ans, au groupe Mammalogique Breton, on avait commencé à se dire de quelle manière va-t-on anticiper cet événement, quoi. D'où, et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et initier la création de ce groupe.
Alors, depuis son retour spontané en France il y a 30 ans à peu près, le loup a entamé une colonisation progressive du territoire. Alors, la géographie de la Bretagne est caractérisée par un espace très humanisé, un habitat dispersé assez dense. En fait, il y a du monde un peu partout et peu d'espaces vierges. Est-ce que c'est un terrain propice à l'installation du loup ?
Alors, un terrain propice, pas davantage que d'autres terrains en particulier, c'est pas du tout un terrain non favorable. Effectivement, il y a un habitat très dispersé. Le loup est une espèce qui est vraiment capable de beaucoup d'adaptations. On sait qu'elle peut fréquenter des zones périurbaines, par exemple. Hein. Elle peut côtoyer l'homme. Et donc, c'est pas un élément qui l'empêcherait de s'installer. Sauf si ça entraîne un rejet de l'espèce et des destructions. Et puis en parallèle, on a quand même des milieux naturels intéressants, des populations de proies intéressantes et des secteurs où il peut quand même trouver une certaine tranquillité et passer assez inaperçu. Donc tout ça fait qu'il est possible qu'un jour, on ne reste pas au simple passage d'individus solitaires, erratiques, disperseurs, mais qu'il y ait installation d'une meute un jour.
Alors, dans notre programme, on s'intéresse au temps long, à l'histoire, et les travaux des historiens nous le répètent, et c'est le cas avec Pierre Le Buan qu'on a reçu donc, dans notre précédente émission. Les bonnes relations humains-loups ne laisse pas de traces, pas d'archives. Et en fait, ce qui fait date dans les archives, c'est plutôt l'accident et l'attaque, le conflit. D'où un tableau complètement déformé de la réalité de la cohabitation. Est-ce que ce biais pèse encore dans les relations contemporaines entre les humains et les loups ?
Alors, ce biais pèse probablement encore. De toute façon, quand on parle du loup, ça provoque tout de suite chez à peu près tout le monde des réactions fortes, hein, on pourrait dire affectives, dans un sens ou dans un autre, ou dans plusieurs sens. Donc ça reste difficile de prendre le loup comme une espèce comme les autres, et ça provoque toujours plein de réactions. Alors je suis pas historien du tout, donc j'ai pas les connaissances sur des traces bibliographiques, etc. Mais apparemment il existe quelques éléments quand même sur sur une forme de cohabitation en Bretagne. Il y a quelques années, on a fait un atlas des mammifères de Bretagne et on avait fait une monographie sur le loup dedans pour, enfin, dans la partie qui traitait des espèces disparues. L'auteur de cette monographie, François de Beaulieu, rapportait quand même quelques éléments de témoignages écrits ou oraux où le loup, enfin, il y avait une cohabitation, les paysans, en gros, savaient comment s'y prendre pour l'effrayer et le faire fuir, quoi, pour éviter des dégâts sur les animaux. Alors, en tout cas, il y a très certainement des possibilités, bon, d'autant que le loup, hein, quand même, a plutôt tendance à éviter l'humain et à le craindre, en tout cas de nos jours en France. Et puis, la manière dont les choses sont présentées est souvent conflictuelle, notamment dans les médias, alors que, comme toujours, hein, les choses sont plus complexes que ça. Et par exemple, nous, au groupe Loup, nous sommes en discussion depuis plusieurs mois déjà avec des éleveurs qui sont tout à fait ouverts à une présence du loup. Et la question est plutôt comment on peut travailler ensemble pour trouver des moyens de protection pour eux, pour que leur pratique soit pas non plus complètement perturbée, que leur travail puisse continuer de se faire, même si un ou des loups venaient à s'installer aux alentours de leurs exploitations, quoi.
Alors, on peut renvoyer les auditeurs de Radio Balise sur le site loup.bzh, qui est donc le site du groupe Loup, qui est plein d'informations sur les loups d'hier et les loups d'aujourd'hui ou de demain. Franck Simonet, merci.
Je vous remercie aussi.
À bientôt.
À bientôt.
Merci Braz, à Daniel Dougette et Franck Simonet. Grand merci aussi aux enfants de l'école de la Montagne à Zanzac-le-Christ qui nous ont donné à entendre leur savoir et leur imaginaire du loup. Merci à leurs enseignantes et à leur directeur, Éric Leruyette. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Balise. À bientôt. Cheval Vapeur, le rendez-vous d'histoire proposé par l'Écomusée des Forges et Radio Balise, c'est un nouveau numéro chaque lundi à 9h, rediffusé le vendredi à 16h et sur radiobalise.com pour une réécoute à volonté. À bientôt.